BFM Business, il est 13h. Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 614 de l'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation responsable et modérée. Les vins du Palatinat, on va en parler, nous sommes en Allemagne, les cœurs marines de Trouville-sur-Mer, les 10 ans de la part des anges à Cognac, la mention supérieure pour les vins du Bordelais, qu'est-ce que ça veut dire exactement, les bonnes adresses de Gomillot, le concept Vinissime, et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie de Marc Esquiret, Bernard Burchi, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Alors Marc, on commence par l'agenda du vin et direction le Bordelais.
Alors, les samedis 15 et dimanche 16 octobre de Langon à la Brède, le long de la rive gauche de la Garonne, pas moins de 67 châteaux ouvrent leurs portes. Cette année marque la 20e édition des portes ouvertes en grave, la première datant de 1997. De 10h à 19h, vous pourrez vous initier à la dégustation, découvrir le vignoble en minibus, visiter la vinothèque des graves à Podensac, retrouver les châteaux participants et tous les détails sur vin au pluriel de grave avec un S.com.
Alors le même week-end, il se passe des choses en Bretagne, Marc.
En Bretagne. Alors, pas de vignoble, pas peu de vignoble en Bretagne.
Pas
mais,
encore, mais c'est ton jamais.
Voilà, bientôt, alors, comme en Normandie. Même date, 15 et 16 octobre, mais en Bretagne, 50 producteurs et artisans passionnés au total, dont une vingtaine de viticulteurs, vous attendront au 4e salon vin et gastronomie de Vitré, au parc des expositions de Vitré, de 10h à 19h, entrée et dégustation gratuite.
Bernard Burchi, un jour, un vignoble en Bretagne, vous y croyez ou pas?
J'y crois. D'ailleurs, il y a déjà quelques embryons. Donc, on commence à goûter quelques vins donc ici et ça tient la route.
Oui, donc à terme, pourquoi pas
Ben, avec le réchauffement, c'est évident.
Bon, très bien. Allez, on continue sur l'agenda, Marc, avec Lyon.
Le prochain dîner du Wine & Business Club Lyon se déroulera le mercredi 19 octobre dans les salons du restaurant La Rotonde, au menu économie, gastronomie et grand cru. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Et enfin, Besançon.
Du 21 au 23 octobre, au parc des expositions Micropolis, la ville de Besançon ouvrira les portes du 22e Salon des Vins de France. Terre de savoir-vivre ancestrale, la région de Besançon s'est offrir aux papilles des bisontins un florilège de saveurs. À la fin de votre visite, les cépages français et les accords mets et vins n'auront plus de secret pour vous, pendant que vos enfants se promèneront en calèche, à poney ou à dos d'âne, ou résoudront un parcours d'énigmes dans les vignes.
Combien ça coûte?
Tarif 6 euros, info pratique, salon-vindefrance.com, vin au singulier, vindefrance.com/Besançon.
Où est-ce qu'on met les limites sur le terme France?
Ah, la France.
Oui. Voilà, c'est quoi la France?
Vous qui avez demandé la nationalité française,
la
David,
voilà, je devrais le savoir.
Voilà
oui.
La question.
Ouais. Une bonne adresse à Besançon, un restaurant, Marc, peut-être si vous avez.
Oui, le manège, une bonne petite adresse.
Et il y a le bar à vin.
Voilà, c'est oui, chez Achour qui fait un très bon couscous.
Et
voilà.
Là, on se régale. Bon,
oui,
allez.
Bien sûr.
Philippe Faubrac, vous avez une bonne adresse, vous, à nous conseiller à Besançon.
C'est une cuisine française.
Besançon Centre.
Besançon Centre, non. Mais à proximité de Besançon, pas loin de la gare TGV, il y a un très bel endroit, un château
du côté de Mouchard, château de Germinières.
Exactement, voilà. Par exemple.
Et là, c'est très bien, quoi. Ouais. Sinon, il y a le couscous bébert que je t'envoie de la gare. Mais
il paraît. Il paraît.
Alors, Philippe Orbach,
je vous dirai.
Si je vous dis 1963, vous en pensez quoi?
Ça fait sourire les amateurs de Porto, mais presque que les amateurs de Porto.
Les autres pleurent.
Voilà, c'est un grand, grand millésime au Portugal. Et il va y avoir bientôt le 17e Master of Port qui a été présenté cette semaine à l'ambassade de France, du Portugal, pardon, en France. Et 63, c'est le millésime de légende, le Quinta de Noval, National 63 par exemple, mais globalement, tous les vintages 63, c'est très grand. Si je parle beaucoup du Porto, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter, mesdames et messieurs qui nous écoutent.
Alors, quelques people nés en 1963.
Il froid un peu partout, il y a eu du gel, les vendanges sont passées sous la pluie, les vins étaient plutôt acides et tout. Ils ont été appréciés dans les premières années par sympathie pour les vignerons, mais depuis il a fallu quand même pas mal les oublier.
Bon, très bien.
Néanmoins.
Qui est né en 63?
Alessandra Martinez, Brigitte Nielsen, Isabelle Giordano, Elle MacPherson quand même, The Body.
Pas mal. Hein.
Laurence Boccolini, une autre façon d'envisager le body. Marie-Claude Prétiagala, Pascal Clark par exemple, Pauline Esther, sont toutes de 63. Et côté garçon, il y a Franck Dubos, Podalides, Rock Voisine, Quentin Tarantino, Paul Belmondo, bon,
vous avez Xavier Mérin,
etc. Et
Philippe, très gâté. Vous êtes presque le gala du Pinard.
C'est un peu ça. D'ailleurs, Stéphane Bern est né cette année, là, mon cher.
Ah, très bien.
Voilà, ça ne pouvait pas se louper.
Et c'est aussi la naissance de notre premier invité, Xavier Mérin.
Exactement.
Le président du groupe Mérin, du groupe Evonim. Bonjour, Xavier.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes diplômé de l'ISTEC. Et alors, après, vous êtes directement rentré dans la boîte familiale.
Voilà.
Vous n'avez pas eu envie de faire vos armes ailleurs?
Non, à la fin de mes études, je suis parti un an en Angleterre. J'ai pris ma voiture. Je suis allé servir des bières dans les bistrots.
À quel endroit?
Jouer au snooker. Ah, j'étais à Gloucester.
Ah oui, bonne équipe de rugby.
Excellente, oui. C'est Saint-André qui avait joué là-bas, je crois, Saint-André.
Hein. Oui, Saint-André a entraîné, a joué et a entraîné.
Ah, oui. Je travaillais dans les vieux moulins, je faisais du tissu écossais, je faisais des filtres, du non-tissé, voilà, de la découpe de tissu.
Et après, on rentre à la maison, quoi.
Voilà,
alors, l'entreprise, donc c'est votre père qui l'a créée en 1959, c'est ça?
Voilà, mon père est sorti des arts et métiers dans les années 50 et a voulu poursuivre l'aventure familiale, puisque l'aventure est née en fait il y a un peu plus d'un siècle avec le grand-père de mon grand-père dans le tressage. Ouais. Donc toute une vie de passementier tresseur. Alors qu'est-ce que c'est la passementerie tressage? C'est les lacets de chaussures, les galons, les petits rubans tressés qui servent à la confection, etc.
Et aujourd'hui,
mon père s'est lancé dans les années 50, fort du savoir-faire de la famille, qui était du tressage, et il a monté sa propre affaire dans les gaines isolantes tressées, donc les tubes isolants pour les applications électrotechniques et électriques, et puis ensuite assez rapidement les fils et câbles électriques spéciaux, début des années 60, qui trouvaient leurs applications dans les moteurs, dans les cuisinières électriques et dans les appareils électrochauffants. Et puis voilà, après l'entreprise a grandi, et j'ai rejoint entreprise familiale en 1985.
Et aujourd'hui, vous avez combien de métiers? Vous êtes resté sur ça a quand même évolué, quoi.
Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Notre cœur de métier reste les fils et câbles électriques spéciaux et les gaines isolantes tressées.
Les câbles de l'extrême.
Voilà, c'est 70% de notre activité. Et puis, on a trois autres business units qui sont les éléments chauffants, les flexibles pour le sanitaire, le génie climatique. D'ailleurs, éléments chauffants et flexibles qu'on trouve d'ailleurs dans l'application agricole et notamment dans le vin. Et puis enfin les dispositifs médicaux, les emballages primaires pharmaceutiques, c'est une acquisition récente qui est un petit peu différente de notre métier, notre cœur de métier, mais passionnante tout autant.
Aujourd'hui donc au total, hein, vous êtes pas loin de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Voilà.
Le capital, il est toujours 100% familial.
Capital toujours 100% familial.
Il n'y a pas de projet de bourse de.
Non, surtout.
On reste en famille, quoi.
On reste en famille, c'est plus simple.
Bon,
c'est
alors. Aujourd'hui, vous avez 8 usines en France. Bravo!
6 usines en France.
6 en France.
Et 3 à l'étranger.
Et alors, pour dire encore en France, c'est possible?
C'est difficile. C'est difficile, mais c'est encore possible, à condition d'avoir bien anticipé les mutations de l'économie aujourd'hui mondiale qui en fait, nous met en lumière le fait de se séparer. Il a fallu que l'industrie française se sépare de ses produits de commodité ou alors retrouve dans ses activités des niches de services ou de technologies. Et ceux qui n'ont pas anticipé ça se sont retrouvés dans la vague des fermetures d'usines qu'on a connues et qu'on continue à connaître malheureusement.
Et aujourd'hui, donc, avec tous ces freins, quelque part, à l'entreprise, si c'était un petit peu levé, vous seriez quoi, plus favorable à embaucher encore plus de monde, peut-être?
Oui, je crois que moi, j'ai choisi ce métier parce que j'avais envie de créer de nouveaux produits, d'investir, d'entreprendre. Et j'ai passé trop de temps dans ma vie professionnelle à m'occuper de problèmes réglementaires, juridiques.
C'est très lourd, vous avez un peu marre.
C'est tout à fait ça, c'est qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, le secteur public freine le secteur privé, quoi, clairement, très clairement, et c'est une vraie difficulté. On savait qu'il y avait déjà un gouffre entre les deux secteurs. Aujourd'hui, ce gouffre, il est abyssal, et aujourd'hui, le secteur public est très clairement freiné par les difficultés qu'on oppose aux entrepreneurs.
Alors, vous investissez également pas mal en R&D, hein, recherche développement.
Oui, beaucoup de développement très spécifique pour essayer de coller le plus possible aux besoins de nos clients. Nos clients sont dans l'aéronautique, ils sont dans le secteur ferroviaire, ils sont dans le secteur naval, dans l'armement. Ils sont aussi dans l'électrotechnique. Tous les grands constructeurs de matériel électrique font partie de nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être crédible, il faut être extrêmement rapide. Mm-hmm. Moi, ce que je dis, et c'est une vraie différence. Les années 80, 70, 80 ont vu les gros manger les petits. Aujourd'hui, c'est les rapides qui mangent les lents.
Oui, l'agilité, quoi. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous avez également grandi par croissance interne et aussi externe, avec notamment récemment un rachat aux États-Unis qui est stratégique pour vous.
Oui, c'est important parce qu'on a tourné autour de ce marché pendant très longtemps sans trouver la porte. On a obtenu toutes les qualifications produits. On connaissait parfaitement les acteurs sur le marché nord-américain et par extension l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. En revanche, pour s'implanter durablement, il fallait avoir une implantation solide, structurée et industrielle sur place. Local. Et j'ai trouvé en 2008 une petite structure qui était complètement dans notre cœur de métier, qui était suffisamment petite pour qu'on puisse la développer et pas suffisamment grande pour qu'on puisse manœuvrer le navire, en fait.
Et là, c'est jouable.
Et là, c'était jouable. On a discuté pendant des années, on est resté en contact et l'année dernière, on a signé l'acquisition de cette usine qui est dans le Connecticut.
Bravo. Donc, côté communication, vous êtes sponsor du club de rugby de Clermont. Ouais. Vous avez joué, vous aviez au rugby?
J'ai joué au rugby, oui, mais en...
Quel poste? À la mêlée, vous avez une tête à jouer à la mêlée, vous?
Mais non, justement pas, j'étais troisième ligne. Le sac à dos, c'est pas mal.
C'est la mêlée, ça, quand même.
C'est la mêlée. Voilà,
ouais. En tout cas, on aide le neuf, quoi.
Souvent, parce que j'ai quand même le physique d'un pilier, mais ancienne génération, vous voyez. Oui. en troisième division,
bon, de Paris. Un petit pronostic, là, devant tous les auditeurs de BFM Business. Clermont, champion cette année ou pas?
Bah, Clermont, je vais vous dire, Clermont, cette année.
Le doublé?
Oui, c'est possible. Ouais, moi, je pense que c'est possible.
Ils ont les moyens.
Ils ont l'équipe. Et puis surtout, ils jouent très vite. Parce que en rugby, c'est comme...
L'agilité, comme votre boîte.
C'est la vitesse qui fait la différence. Mmh. C'est la vitesse de jeu.
Regardez les All Blacks, c'est l'illustration.
Tout à fait.
Regardez les Français, c'est l'exemple inverse. Alors, je sais, Xavier, que vous écoutez tous les week-ends InVideo BFM sur BFM Business 107.0 à Clermont. Combien de bouteilles dans votre carte personnelle?
Oh, j'ai 1500 bouteilles, mais...
Bon,
mais
on vient le week-end pas. Prochain, on sera chez vous. Mais, on ira voir. Bon match au rugby.
Bien voilà.
Il n'y a pas un petit resto sympa, Marc, à Clermont, à vous conseiller?
Il y a plein de restos.
On ira avec Marc, comme ça on
sait que Xavier Boudimont, par exemple.
Alors, côté vin blanc, quels sont vos cépages favoris, Xavier Burin?
Bon, moi, j'aime beaucoup le chardonnay pour ses goûts de citron confit, d'agrumes. Je suis un grand fan du Viognier. Mmh. Et puis
parfum d'abricot, de violette,
ouais, et tout voilà, ça. Très floral, très floral, le nez,
le verger.
Et puis aussi un grand fan des Marsanne et Roussanne, les
bon, vins, un garçon très ouvert.
Voilà. Du Nord. Alors,
moi, je viens d'avoir un petit-fils il y a 8-10 jours.
Quel est son prénom?
Joseph.
On l'embrasse, Joseph.
Donc, je vais faire
Saint-Jo,
le plein
de Saint-Joseph.
C'est ce que m'ont dit mes amis.
En magnum, hein.
C'est vrai.
Pour la garde, oui.
C'est mieux pour la garde que si c'était appelé à Bourg, quoi. C'est vrai, quoi. Alors, vous avez visité il y a quelques années, un an, la Napa Valley, c'était sympa?
Ouais, c'était super sympa. C'est assez marrant parce que on visite des châteaux qui ressemblent pas à nos châteaux à nous. On passe d'un château de Moyen-Âge du 12e siècle.
Oui. Et le truc italien tout au nord, vous l'avez vu, celui-ci?
C'est
extraordinaire.
Des choses très contemporaines, etc. J'ai trouvé leur vin excellent et différent. Et, en revanche, je l'ai trouvé très cher.
Ah oui, mais voilà,
c'est sûr.
Vraiment. Côté cuisine, Xavier Omerin, il paraît que vous êtes champion du monde des fonds de sauce.
Oui, au pas du monde, non. De mon quartier ou de ma rue, peut-être.
Alors, attendez, il y a Marc qui va écouter. Comment vous les préparez, vos fonds de sauce?
J'adore faire suer les carcasses, quoi.
C'est troisième ligne.
Je fais suer les carcasses avec une garniture aromatique et là je me fais plaisir parce que voilà, alors ça peut être des carcasses de viande, hein, mais des carcasses, j'adore les carcasses aussi de
bon, et il paraît, Xavier, que vous êtes aussi champion olympique du sauté de veau.
Sauté de veau, je fais le sauté de veau, mais je fais la blanquette de veau, je fais le bœuf bourguignon, je fais tout.
Qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer, bon, Philippe Orbach, avec un bon sauté de veau qu'on ira déguster chez Xavier le week-end prochain?
Ça dépend du fond de sauce qu'il est d'abord. Ouais, mais avec le sauté de veau, on peut soit goûter un rouge tendre, un pinot par exemple en Bourgogne, un Fissin, ou plus au sud un Mercurey.
Côte-Rouen,
et puis exactement, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais on peut aller aussi sur des blancs. Vous êtes amateur de Chardonnay par exemple, avec la matière, le gras, vous allez sur un Puligny, un Meursault ou même un Centenay blanc d'une année un peu généreuse, ça va très très bien.
Et pour terminer, vous êtes fan de jazz, paraît-il?
Oui, je suis mélomane et un peu musicien.
Vous jouez quoi? Quel instrument?
Je joue du piano et du banjo.
Banjo et piano. Ouais, c'est top ça. Et alors pour terminer, vous connaissez bien les vins du Palatinat en Allemagne ou pas?
Alors pas du tout.
Mais ça tombe bien, Xavier. Parce qu'on va parler avec Bernard Bucci. Merci beaucoup, cours, Xavier Mérin, le président du groupe Éponyme.
Merci à vous.
Alors Bernard Bucci, donc le monsieur vin du Figaro, aujourd'hui, une petite balade en Allemagne. Ils font du vin en Allemagne?
Ils font du vin et même monsieur avec Martin. Le réchauffement climatique, je pense qu'ils vont en faire de plus en plus. C'est peut-être même un des principaux concurrents qui est en train de se préparer. Ah, donc, si, et d'ailleurs, les Français l'ont pas raté, puisque je vais quand même juste donner une petite nouvelle, je vais en profiter, puisqu'il y a une foire internationale qui a lieu à Dijon, et tous les ans, ils invitent un vignoble étranger. Elle a lieu pendant 10 jours, pendant le 1er, 2 et 3 novembre, ils invitent justement le Palatinat et la Rhénanie. Et donc, l'année dernière, ils avaient invité le Chili, l'année d'avant le Porto, une année, un vignoble proche, dans une autre année, un vignoble plus lointain. Ils ont commencé par l'Afrique du Sud. Donc, si, d'ailleurs, c'est une très bonne idée, puisqu'il y a 20 producteurs qui vont se déplacer. Et puis, il y aura la gastronomie, donc ici. Donc, alors, évidemment, vous savez, vous n'avez pas la moindre idée où est le Palatinat, j'imagine.
Qui s'appelle Pfalz.
Qui s'appelle Pfalz en allemand.
C'est la partie ouest.
Et donc, c'est tout simplement le prolongement du vignoble alsacien.
Oui.
Donc, ici. Donc, on a le Palatinat et ensuite la Rhénanie, puisqu'en fait, on va prolonger le Rhin.
Ils sont de quelle couleur ces vins?
Alors, ils sont en Allemagne, pour les deux tiers, ils sont en blanc, mais un des scoops, c'est que pour un tiers, ils sont en rouge. Et d'ailleurs, l'Allemagne est le premier producteur mondial de Riesling, mais le troisième producteur mondial de Pinot Noir.
Ah oui.
Parce que personne, donc il doit y avoir 11 000 hectares, 30 000 hectares en France, 26 000, je crois, aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a une montée de Pinot Noir très importante. J'avais fait d'ailleurs l'année dernière une grande dégustation et ils sont pas aussi doués que nos amis californiens qui en 1976, avaient mis les vins français avec les vins américains. Mais je pense que aujourd'hui, il y a quelques grands pinots noirs allemands qui commencent vraiment à se positionner.
Bernard, voilà, on va organiser ça tous les deux. On va faire une dégustation à l'aveugle de pinots noirs allemands contre les pinots noirs français. On va avoir des surprises.
C'est une bonne idée. Et puis il y a les Suisses aussi. Donc en tout cas, ce sont les deux régions d'ailleurs les plus importantes en surface. Il y a 13 régions en Allemagne, donc 11 qui sont le long du Rhin et de la Moselle, 2 qui sont en ex-Allemagne de l'Est, donc beaucoup plus loin d'ailleurs, beaucoup plus froide. C'est le 14e producteur mondial. Qui se positionne plutôt bien. Donc on est là entre Karlsruhe et Mayence. Mayence, pour la petite histoire, c'est la ville de Gutenberg. Il y a quand même quelques. Et d'ailleurs, il y a un très beau musée que j'invite beaucoup à voir. D'ailleurs, la région elle-même est très belle. C'est une région qui se démène beaucoup parce que tous ces Länder sont aujourd'hui indépendants. D'ailleurs, le Palatinat et la Rhénanie sont une création française puisqu'elle a été définie par le général Koenig en 1946. Je le rappelle. Pour la petite histoire, il y a toujours eu un lien très fort avec la Bourgogne. D'ailleurs, j'ai vu qu'à Mayence, il y avait carrément la région Bourgogne avait donc ses propres tous ses produits. Mais
c'est l'histoire de l'ancien empire germanique.
Voilà, l'ancien empire germanique. À Dijon aussi, d'ailleurs, il y a une maison du Palatinat. Il y a deux choses à souligner. D'une part, il y a effectivement un tourisme très important, fluvial sur le Rhin, sur la Moselle. La partie romantique de l'Allemagne, plein de châteaux à visiter. Et puis d'ailleurs, une petite chose anecdotique, il y a une reine du vin en Allemagne. Mais contrairement à la France, pour être reine du vin, il faut passer tout un ensemble d'examens écrits sur la connaissance du vignoble. Puis ensuite, une présentation, il faut parler anglais aussi.
David, ça vous intéresse d'être
pendant un an
je vais soumettre ma candidature.
C'est quand même intéressant, c'est-à-dire que c'est à la mode Allemagne, c'est-à-dire c'est dans le mode sérieux, c'est
si
pas uniquement sur des critères. Pas uniquement sur des critères
de prestance. Il n'y a pas de palpation.
C'est tout un ensemble.
Qui devient finalement une ambassadrice quelque part.
C'est une ambassadrice. C'est une ambassadrice qui va être compétente.
Exactement.
Et pas uniquement pour la photo. Il y a des très bons producteurs. D'ailleurs, il y a un producteur qui s'appelle Jules Gröll-Palatinat, il a 20 hectares. 10 hectares en Allemagne et 10 hectares en France, de l'autre côté de la frontière, et fait du vin allemand. Ce qui est quand même.
Il déclare tout en Allemagne.
Pardon ?
Il déclare tout en Allemagne.
Et il y en a d'ailleurs son frère, qui lui est basé en France, fait l'inverse.
Ouais, ça équilibre les choses.
Il n'y a pas de frontière en matière de vin. Alors, il y aura donc à cette foire internationale des producteurs célébrissimes, hein, comme Donoff, par exemple, qui est probablement le...
Magnifique.
Derrière Gunmuller, le meilleur producteur allemand. Hein, donc, si, il y a Bassermann Jordan, il y a Sigrist, et, alors, pour tout de suite répondre à la question, les prix. Hein, donc, vous achetez des Riesling chez Sigrist à 12 euros.
Ah, ça va,
de toute beauté, et qui sont sur des pentes impressionnantes. Hein, donc, ici, ramassés, hein, donc, ici, au treuil, quasiment.
Je vois Xavier Mérin qui note.
Ici, voilà. Donc, il y a, donc, c'est vraiment, donc, et vraiment à des prix angéliques. Et ils seront d'ailleurs là, et vous pourrez vous-même, et même passer lui un coup de fil pour être sûr si vous y allez, donc pour qu'il vous en ramène. Et donc ça vous permettra de baisser. Donc,
et Bernard, pour terminer, votre coup de cœur, le vin du Palatinat qui vous a le plus ému?
Ah ben moi, justement, c'est vrai que Sigrist, qui est un producteur qui a d'ailleurs été formé à Montpellier, hein, donc ici, j'étais impressionné par toute la gamme. Hein, donc, ici, donc il fait partie, donc il y a un groupe des vins allemands qui s'appelle le VDP, hein, donc ici, qui regroupe les meilleurs producteurs. Donc là, on a quand même donc ici des très jolis vins.
Merci beaucoup, Bernard Burchin. Vino BFM accueille maintenant Émile Viciana, le directeur général des Cures Marines de Trouville-sur-Mer, que j'ai rencontré il y a quelques jours dans les salons du Shangri-La à Paris. Bonjour, Émile.
Bonjour.
Alors, vous êtes né en 1964 à Marseille. Est-ce que vous supportez l'OM ?
Je supporte l'OM. On ne peut pas être né à Marseille et ne pas supporter l'OM.
C'est, bon, c'est alors, dans votre carrière, là, on quitte le foot de Marseille pour aller à Londres. Vous avez 20 ans. Et là, clic, c'est le déclic. Vous décidez de travailler dans l'hôtellerie-restauration. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, écoutez, j'ai pas du tout fait d'études d'hôtellerie ou de restauration. Mais pour un séjour linguistique à Londres, je me retrouve dans un restaurant français... En faisant un petit job de dépannage. Et, oui. Et là, je tombe amoureux de ce métier, ce côté théâtral, ce côté ambiance devant et derrière qui est juste...
Oui, les coulisses.
Les coulisses. Le... J'ai trouvé...
Là, vous avez un déclic, quoi.
Oui, ça m'a tellement plu que 2 ans après mon...
Ouais, mon job, ça va être ça.
Oui, quand je suis entré en France, je me suis dit, ça sera ça.
Alors, vous avez travaillé successivement pour Hilton et puis Accor. C'était deux belles expériences, Émile ?
Oui, très très belle. 10 ans chez Hilton International sur 2 destinations, Strasbourg dans un premier temps où j'ai appris un peu ce métier.
Avec les bons vins d'Alsace que vous avez, j'espère, dégusté avec modération, mais il faut les goûter.
Ah non, mais alors là, vous avez en face de vous un passionné de vin alsacien. Ensuite, j'ai fait l'ouverture du Hilton sur la Croisette à Cannes. Et là aussi, ça a été...
L'abbaye de Lérins avec les vins en face.
Ouais, magnifique.
Et 5 ans à Quiberon, c'était comment ?
Alors, après Hilton, j'ai intégré Accor.
Longtemps quand même, hein ?
Oui, enfin, on a... J'ai également, entre Hilton et Accor, j'ai travaillé à l'hôtel du Cap Eden Rock. Et puis ensuite, je suis rentré chez Accor. Et là, j'ai fait la Côte d'Azur, puis ensuite la montagne. Et puis, un jour, on m'a proposé de diriger le Sofitel de Quiberon. Et pour moi, c'était un nouvel univers, la thalassothérapie, avec ses rouages, ses codes. Passionnant, juste passionnant.
Vous êtes resté 5 ans à Quiberon ?
Oui, 5 ans.
Bon, ça fait un peu la fête, hein, genre un 4 janvier à Quiberon ou pas ? Ou c'est calme quand même ?
Non, je vais pas vous mentir, l'hiver à Quiberon est un peu long. Cela dit, on avait tout au long de l'année une très très belle clientèle et c'était un très bon moyen de faire ce métier.
Bon, depuis 2014, vous avez trouvé votre nirvana professionnel en atterrissant à Trouville-sur-Mer. Alors, les Cures Marines, racontez-nous un peu l'investissement, 40 millions d'euros pour créer et rénover, c'est énorme.
Oui, en fait, on est sur un bâtiment qui a plus d'une centaine d'années. Trouville, au début du siècle, était un peu l'endroit où les Parisiens venaient pour les premiers bains de mer. Et à ce moment-là, ils ont construit ce qui devait être le plus grand casino de France. 100 ans plus tard, le casino est toujours là, mais toute une aile, une aile assez importante, ça fait 10 000 mètres carrés, de ce bâtiment qui a plus de 100 ans, était à exploiter. Et mes propriétaires ont investi donc 42 millions d'euros.
42 millions d'euros.
Pour en faire une des perles de la thalassothérapie en Normandie, voire en France.
Ouais, en France. Alors, ça a ouvert il y a un peu plus d'un an, c'était en août 2015. Émile, un premier bilan, un an après ?
Bah écoutez, on a ouvert au printemps 2015 et après quelques semaines de rodage, eh bien on a fait un automne très très bon, au-delà de nos espérances, un hiver qui était plutôt très bon. On a eu un printemps un petit peu en demi-teinte, qui peut être expliqué d'ailleurs par l'amorosité ambiante au printemps. Et on a fait cette saison, juillet, août, oui, septembre, un très très...
Vous êtes en 4 étoiles
très, très belle saison. Oui, nous sommes positionnés 5 étoiles.
Oui.
Le site est composé d'un hôtel donc 5 étoiles, de 103 chambres. Nous avons un restaurant gastronomique.
Alors justement, on en parle, vous avez un chef formidable.
Ah oui, oui, je crois qu'on peut.
Il s'appelle comment?
Johan Thiriot.
Et il est élève de qui?
Alors, c'est un jeune homme qui a fait ses gammes avec Michel Bras. Sur l'aïeul. Et ce jeune homme, Michel Bras, lui a confié son restaurant au Japon. Et il a obtenu plusieurs étoiles dans ce restaurant japonais. Lorsqu'il est rentré en France, il a ouvert son petit restaurant avec son épouse dans le sud de la France. Et à la vente de cet établissement, il nous a rejoint.
Dès le début, hein, juste avant l'ouverture.
Non, en fait, il nous a rejoint quelques mois après l'ouverture pour être chef exécutif des Cures Marines.
Vous visez l'étoile quand même, on peut le dire.
Je le dis pas.
Bon. Mais si elle vient, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais je le pense très fort.
Et quelques plats signatures, pour ceux qui nous écoutent, qui vont aller chez vous déjeuner ou dîner, les un ou deux plats ne pas louper de ce chef.
Écoutez, bien entendu, on travaille tous les jolis produits de la Normandie. Il faut évidemment goûter absolument la préparation de la sole que Joanne Thiriot réalise. On travaille toutes les viandes du bocage normand. Enfin, on a une gamme très très importante.
Alors, la carte des vins, nous on s'intéresse beaucoup aux vins à bord d'une vidéo BFM. Est-ce que vous avez une jolie carte des vins?
On a une jolie carte.
Plutôt tendance quoi, bordelaise, nationale, internationale, pourquoi
on
pas?
On a 90 références. Nous avons bien entendu, on a toutes les régions qui sont représentées. Et je dirais pas qu'on se spécialise sur une région en particulier. On a une gamme assez importante sur ça, avec des très très jolis produits.
Le prix hors vin, on va dire le ticket moyen pour un dîner avec sa chérie ou sa belle-mère,
c'est entre 80 et 100 euros.
Oui, donc c'est très raisonnable pour un gastronomique. Ouais. Et le prix des chambres, c'est-à-dire qu'on va de combien à combien suivant les saisons, je suppose?
Alors oui, ça évidemment, ça évolue en fonction des saisons. On est autour de entre 200 et 1000 euros pour notre plus belle suite en plein été.
Et on peut louer des chambres indépendamment de la Thalasso, même si c'est un peu dommage de ne pas y aller, quoi.
Oui, bien sûr. On accueille chaque week-end beaucoup de touristes qui viennent pour profiter du week-end à Trouville.
Et qui s'éclatent chez vous, c'est génial. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement, peut-être?
Alors, eh bien, écoutez, je vous conseille d'aller sur L'Écure Marine, notre site internet.
Là, on a tous les renseignements, quoi,
oui,
sur l'ensemble. Quoi. Et pour terminer, quand même, côté vin, Émile, vous êtes un gourmand, vos vins favoris, vos deux, trois derniers coups de cœur.
À moi, je suis un inconditionnel du Bourgogne, un bon Pommard, un bon Chablis, et la vie est belle.
Voilà, c'était Émile Vissana, le directeur général des Cures Marines de Trouville-sur-Mer, que j'ai rencontré il y a quelques jours à Paris. Une vidéo BFM, Marc Hulepose pour les infos. Et ensuite, retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour le vidéo quiz. Et puis ensuite, les bonnes adresses de Marc Esquiré.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée. C'est le moment du vidéo quiz avec Bernard Burchi.
Je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. La semaine dernière, la question était: en quelle année a été fondée la maison Krug? Réponse A, en 1772. Réponse B, en 1818. Réponse C, en 1843. La bonne réponse était la réponse C,
1843. Alors cette semaine, Bernard.
Nouvelle question. Comment appelle-t-on la partie du volume d'un alcool qui s'évapore pendant le vieillissement en fût de cognac?
Oh là!
Réponse A, la part des anges. Réponse B, la part du pauvre. Réponse C, la part du lion. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide du vin du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeux.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Bernard, du BFM. Retrouve maintenant Marc Esquiré, rédacteur en chef de Gobillot, pour ses restaurants coup de cœur. On commence par Paris, c'est ça dans le quatrième, Marc?
Alors on commence par Paris. En fait, on va commencer par des jeunes chefs, trois jeunes chefs. que Goemio a décidé de suivre, et on a mis en place un dispositif qui s'appelle la dotation. Vous savez que les jeunes chefs, ils ont toujours beaucoup de mal à s'installer. Ils vont voir la banque et la porte de la banque se ferme assez lourdement. Et donc, on a mis au point un dispositif en réunissant des partenaires pour les aider justement à monter leur propre restaurant et donc à devenir entrepreneur. Et ça a un triple impact. Le premier, c'est qu'évidemment, ça les aide d'abord mécaniquement à ouvrir. Le deuxième, c'est que ça, justement, ça leur entrouvre la porte de la banque, parce que quand ils disent on a la caution Goemio, ça sert à quelque chose. Et au moment de l'ouverture, on a, comme vous le savez, la puissance de feu d'un croiseur pour lancer cet établissement.
C'est bon, ça.
Trois jeunes chefs.
Jeunes chefs, c'est quel âge, Marc? C'est l'âge, ou c'est l'intérieur?
Oui, c'est en général des gens qui commencent dans le métier. Mais par exemple, le premier, Hubert Duchesne, il a une trentaine d'années à peine.
D'accord.
Mais il a tourné chez Ducasse. Il était au début du Spoon. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet établissement rue Marignan. Il a été chez Piège, période Plaza, avec Nomikos chez La Serre. Et nous, on l'a rencontré parce qu'il était le second d'Akram Benalal. Et quand Akram nous a dit Hubert va partir, c'est mon second, il est excellent et tout, on a décidé de l'accompagner. Donc il a ouvert son restaurant il y a maintenant 5 mois, ça s'appelle Le H. C'est rue Beaucir. Rue Beaucir, c'est une petite rue entre Place des Vosges et Bastille.
Le H parce que le HLM.
À cause de Hubert, je pense. Merci David. Et il fait une très jolie cuisine, ça marche très bien, c'est pas un bistrot, hein. C'est réellement une belle table, petit volume mais grande.
Combien de couverts à peu près?
Il y a 25 couverts à peu près.
C'est quand même confidentiel.
Oui.
Et le prix, comment c'est?
Et ça coûte pas très cher, ça coûte 60-70 euros pour une vraie gastronomie avec vraiment des choses pointues. C'est, je dirais, technique moderne, c'est-à-dire des très belles présentations mais beaucoup de boulot derrière. Voilà, c'est très intéressant.
Une carte des vins sympa?
Et une carte des vins moderne. Là aussi, on trouve un peu de tout. On trouve des vins nature, bien sûr. Il en faut, mais une belle variété.
Alors, on va direction l'Alsace.
Alors, l'Alsace, toujours un bénéficiaire de la dotation, Julien Binz. Julien Binz, il a repris un établissement qui s'appelait l'Arbre Vert à Hammerschwihr. Et lui, c'est également un très, très bon technicien. On le connaissait, nous, du rendez-vous de chasse à Colmar. Et il fait une belle cuisine. Il a une palette très large. En musique, ce serait de Mendelssohn à Metallica. Vous voyez,
c'est très sincère.
Il peut un peu tout se permettre. Et ça marche très bien, ça fonctionne bien. La salle est jolie, il y a une terrasse pour l'été. C'est quelqu'un qui rayonne bien, Julien Binz. J'aime beaucoup sa cuisine.
Il est installé depuis combien de temps?
Il est installé depuis un an maintenant.
Voilà. Et ça tourne?
Ça va très bien. La situation d'Hammerschwihr à côté de Colmar est favorable.
Ouais.
Comme toujours, l'hiver en semaine, c'est moins agité.
Il y a moins de monde. Voilà. Il y a quelques pas signatures peut-être, ou que vous nous conseillez, qu'est-ce que vous avez?
Moi, je dirais tout ce qui concerne l'adaptation du terroir à aujourd'hui.
D'accord.
C'est à mon avis là où il est vraiment très bon, parce qu'il possède tellement justement cette tessiture très très large que voilà, c'est très intéressant.
Et il faut se lancer sur un menu dégustation ou alors se guider sur les...
Oui, je pense qu'il faut lui faire confiance.
Ouais, super. Voilà. La carte des vins, il y a beaucoup de vins d'Alsace, je suppose, qui est une magnifique région.
C'est un bon connaisseur et un bon fouineur.
Et puis,
j'ajoute aussi qu'il s'est adjoint les services de Pascal Leonetti pour l'aider à fournir la carte.
Bon, ça va. Ça,
très bon sommelier, ancien de l'Auberge de Lille.
Voilà.
Meilleur sommet de France.
Exactement.
Bon, donc c'est une super équipe, quoi. Le prix moyen?
De 50 à 70 euros.
D'accord, parfait.
Dernière adresse, Valérie Costa à La Promesse. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je remets un petit coup de pinceau d'abord parce qu'elle a eu la dotation pour ouvrir. Mmh. Et puis, l'endroit est magique.
C'est où exactement?
C'est le domaine de Terre Brune, en Bandole.
Ah, oui.
Et elle a installé sa table en
regarde la mer,
là, comme ça, et c'est magnifique. Et donc, alors, Olioul, pour ceux qui connaissent un peu Toulon, Olioul, ça fait pas rêver, mais par contre, quand vous sortez du village et que vous montez dans les vignes, c'est vraiment magnifique, l'endroit est superbe. Là, on peut encore y aller au mois d'octobre, il fait très beau, on peut s'installer en terrasse.
C'est un des rares vignobles de Bandole qui regarde vraiment la mer.
Oui, tout à fait, il y a une vue qui est splendide.
Et les spécialités, qu'est-ce que vous conseillez, quoi?
Valérie, c'est vraiment de la cuisine méditerranéenne, au sens large, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien influencée par une cuisine provençale que italienne ou espagnole même. Et elle mêle comme ça ses saveurs méditerranéennes et ses parfums. C'est très réussi, je dirais que des trois, c'est celle qui a la cuisine la plus sensible, la plus florale, fruits, des très beaux mélanges, des mélanges intéressants et personnels.
Bon, et les vins, je suppose pas mal de vins de Bandole qui sont excellents.
Alors, bien sûr, les vins du domaine, mais également tous les Bandoles, et puis pour pas mal de Côtes de Provence intéressants.
Bon, pareil, ça, Marc.
Qui sont sélectionnés par son époux Jean-Marc. On va de 40 à 70 euros. Il y a un menu fixe le soir qui doit être autour de 50 euros.
Et c'est plus terroir ou gastro?
Gastro.
Plutôt gastro, quoi.
Oui, c'est gastro.
Bon, il paraît que vous avez fait un petit tour dans le 7e arrondissement, là.
Alors, oui, c'était un peu l'événement de la rentrée, tout le monde en parle, ça a ouvert il y a une quinzaine de jours. C'est Divelec. Alors, pourquoi Divelec? Parce qu'avant, c'était le Divelec, donc on allait chez monsieur le Divelec. Maintenant, on va au Divelec. C'est l'initiative de Mathieu Pacou. Je dis, oui, bien sûr, on dit au Divelec comme on dit au coiffeur, vous le savez bien. Parce que le coiffeur, c'est une entité. On va pas chez le coiffeur.
On y va en vélo, d'ailleurs, voilà, tant qu'on y est, quoi.
Bon. Donc, Divelec, c'est le restaurant mythique de poisson que tout le monde connaît, la table des politiques, voilà, qui a été une très très grande maison.
Il faut dire que c'est bien placé géographiquement.
C'était, on va dire, les années Mitterrand.
Oui, c'est exact.
Pour être précis.
Ouais. Hein. Tout à fait.
Et bon, ça a fermé pendant à peu près 3 ans, je crois. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Donc, Jacques Le Divelec l'a exploité jusqu'à cette date. Et puis, Mathieu Pacou a trouvé avec ses investisseurs, notamment.
Il vient d'où, Mathieu Pacou?
Alors, Mathieu Pacou, c'est tout simplement le fils de Bernard, c'est-à-dire l'Ambroisie, également une maison mythique. Et Mathieu Pacou, il a lui-même 2 restaurants qui sont Avenue Diénal, l'Hexagone et Histoire, qui sont tous les deux très belles tables. Et donc, il est maintenant sur tous les bons coups. Et notamment, il a pu reprendre cette très belle maison où il a installé. Alors, c'est un peu. On est un peu dans l'esprit cost, d'ailleurs, les investisseurs.
Donc, c'est plus gastro.
C'est plus
parce qu'il y avait l'étoile,
Jacques. Oui, c'est plus tout à fait gastro. Je parle, les étoiles, je connais pas. Hein.
C'est bien, c'est bien. Vous avez deux secondes à réagir quand même. Hein.
C'est bien. Il essaye de me piéger à chaque fois. Alors, oui, le Divelec, il y avait 4 tocs. Hein. C'est un très bel établissement. Et là, non, l'essai, je pense qu'en ce moment, c'est plus ça. Un lounge où on mange des produits de la mer. Alors, la carte est.
Un quoi, Marc?
Un lounge. Pardon. Merci. Je l'avais pas bien dit.
Non, mais vous savez.
Je parle aussi pour nos amis.
Il est encore
français.
Pour l'instant anglais. Voilà. On verra.
Et oui, alors on est dans cet esprit produit simple, marin. J'ai trouvé que les plats étaient simples, à la limite du banal. Alors on est au tout début, hein.
Oula.
Mais si vous voulez, bon, c'est. Il faut que ça se lance. On comprend pas bien. Sur la carte, il y a haute cuisine de la mer, et puis ailleurs, il n'y a pas écrit haute cuisine de la mer. Moi, j'ai pas bien vu la différence. Cela dit, j'ai mangé une raie qui était très bonne.
Mais elle était haute ou
très nature. Oui, entre les deux. Il y a le principe du plat. Alors, j'étais avec un commensal et ils nous ont posé une assiette où il y avait les deux poissons en même temps. Fallait servir. C'est service à la française, vous voyez. C'est pas un service à la russe. C'est service à la française. On pose un plat, vous partagez.
Tout sur la table. Ouais.
Voilà, j'ai mangé des prère palourde d'amande avec une petite chapelure noix chorizo. C'était bon, bien relevé. Là, c'est parce que c'était hier soir, parce que sinon, j'aurais déjà oublié. Alors, voilà. En revanche, la cave est belle. Très chère, mais belle. Il y a le mot Montrachet est écrit un nombre de fois incalculable. Donc, voilà, c'est une très, très, très belle cave, quand même.
Et alors, c'est cher ou pas?
Ah bah bien sûr,
oui.
Tant qu'à faire. Oui, mais attendez, vous avez un top modèle à l'entrée qui vous met à votre table, vous avez un service de jeunes gens qui sont magnifiques, enfin bon, voilà, c'est quand même l'esprit un peu festif.
La jeunesse se paye.
C'est Paris, c'est, voilà. Donc, c'est... Voilà.
Bon,
donc,
vous allez y retourner dans quelques mois, non?
Alors, je vais y retourner quand il y aura un pâtissier, parce que pour l'instant, c'est les pâtisseries de Cyril Lignac, j'aime beaucoup, mais tant qu'à faire, autant avoir une maison complète. Et je pense que, bon, c'est toujours facile de dire au début, ça, je pense que ça va évaluer, Mathieu Pacou, il a tout le talent qu'il faut pour le faire évoluer dans un certain sens, il choisira, ou bien effectivement il reste à cet esprit un peu une petite table, un peu club entre soi, ou bien on se lance un peu plus dans le gastro, il choisira.
Merci beaucoup Marc Esquiret, le rédacteur en chef de Gomillo. Nous retrouvons maintenant Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour nous parler de la part des anges et non pas la part du lion.
c'est vrai, c'est cette notion que l'on évoque alors à Cognac, mais partout. Hein. La part des anges, elle est vraie pour toutes les autres vies, et même pour les vins, puisqu'il y a toujours une partie qui s'évapore. D'ailleurs, les services fiscaux sont extrêmement attentifs à cette part des anges-là, parce que c'est un manque à gagner considérable pour les taxes, et qu'il faut le savoir justifier. Et elle est variable, en plus, en fonction de...
À quel taux sont imposés les anges, d'ailleurs?
Voilà, c'est une bonne question. On va inviter un expert des impôts pour nous parler
souvent,
de tout ça.
Souvent 3%.
Ou un fiscaliste. Mais c'est... Oui, en fait. C'est... Voilà. À partir du moment où on arrive à le justifier, c'est accepté, comme on dit. Mais il y a des tolérances entre 3 et 7%, effectivement, sûrement. Ça varie en fonction, ça part déjà en fonction des bois et de l'humidité ambiante dans les chais. Quand vous baladez à Cognac, puisque je vais vous parler essentiellement de Cognac aujourd'hui, vous voyez sur les chais qui sont actifs, une sorte de petite moisissure brune foncée sur les toits, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a effectivement des fûts en activité, et il y a cette petite évaporation qui se fixe un peu sur l'extérieur, même à l'intérieur, et puis après qui monte parce que ça
c'est vrai que tous les gens de Cognac quand ils visitent sont souriants quoi.
Voilà, ça fait partie de
très souriant
de l'ambiance, j'allais dire, de la région de Cognac. Alors cette région de Cognac, elle existe depuis très longtemps. C'est l'appellation d'origine contrôlée est entre guillemets récente dans l'histoire de la viticulture qui remonte, comme souvent en France, à l'époque romaine, puisque la première délimitation, c'était pas encore l'appellation contrôlée puisque elle date que de 1935-36 les appellations, mais le premier décret c'est 1er mai 1909.
D'accord.
Donc on a déterminé, parce que il y a une notoriété qui est due notamment à sa situation géographique particulière. On évoquait tout à l'heure le Divelec, je ne peux pas parler de La Rochelle. Il était originaire effectivement de La Rochelle. Il y a Rochefort, il y a Sainte, il y a Jonzac, et on est à la limite aussi de l'estuaire de la Gironde dans la partie sud. Donc c'est une façade maritime sur la Charente maritime et la Charente tout court, qui a permis de se faire connaître et d'être très, très exporté. Donc le cognac, c'est le spiritueux français récemment le plus connu. Et le moins consommé en France, puisque 90% et peut-être même 95% des volumes sont commercialisés à l'étranger, notamment dans les pays asiatiques, mais pas que, parce que j'allais dire presque dans le monde entier,
tous les restaurants, principal marché.
Et aujourd'hui, c'est devenu à cause de la perte un peu du marché chinois notamment, mais la plupart des grandes maisons du monde ont au moins un cognac à leur carte. N'est-ce
complètement.
Pas
complètement toutes les belles maisons quoi.
Oui, toutes les grandes maisons du monde ont au moins un cognac à la carte. Alors, ils ont aussi souvent plusieurs.
Parfois la bouteille dure 15 ans, mais en tout cas elle est là.
Exactement, ils ont. Donc il y a une diffusion effectivement très internationale. Donc c'est aussi un grand vignoble en surface et en volume de production de vin au départ. C'est le cépage d'ailleurs essentiel, il s'appelle l'uniblanc. Et ce cépage est du coup le principal cépage blanc planté en France grâce au vignoble effectivement de Cognac qui fait pas loin de 300 000 hectares. C'est quand même assez considérable. Alors comme tout ça est distillé, et deux fois, et j'aime bien cette référence parce que David Cobol rappelle toujours qu'ils le font deux fois parce que des fois ils loupent la première.
Ça c'est une remarque très, très gasconne, voilà. Que les Armagnacais utilisent à bon escient.
La tradition effectivement c'est cette double distillation qui permet d'avoir le cœur du produit et d'avoir l'essence même de l'esprit du cognac. D'ailleurs, c'est un terme qui existe, l'esprit de cognac. C'est même un cognac qui est distillé trois fois. Le vignoble et le nom viennent du sol, c'est du calcaire. Champagne, campagne. Et c'est pour ça que le cœur du cognac s'appelle la Grande Champagne ou encore la Petite Champagne. Il y a six terroirs particuliers. Les deux premiers que je viens de citer, on rajoute les Borderies qui donnent des vins, des eaux de vie juste magnifiques. Les fins bois, les bons bois, les bords ordinaires qui sont des eaux de vie un petit peu moins fines et qui rentrent volontiers dans des assemblages suffisamment judicieux. Rapidement, avant de parler de la vente, parce que c'est quand même de la vente dont je vais vous parler, par exemple, la fine champagne, on connaît cette expression. La fine champagne est une AOC qui est composée donc à partir de grandes et de petites champagnes avec un minimum de 50% de grande champagne. La grande fine champagne, c'est uniquement de la grande champagne, et la petite fine champagne, c'est uniquement de la petite champagne.
Non, vous suivez, hein.
Voilà. Sachant que.
On va réécouter Dino BFM en boucle, là, pour. Mais c'est comme ça, au moins on a appris les choses.
Le terme vient en tout cas de ce terroir.
Philippe, alors, donc, 10e édition de cette vente, alors.
Exactement. Il y a une dizaine d'années, le Bureau international des vins de spiritueux de Cognac, le BNIC, a décidé de faire une action de promotion. Et en même temps de mécénat pour un certain nombre d'œuvres. Ils se sont dit pourquoi pas valoriser finalement un peu comme le faisaient les Bordelais avec peut-être la fête de la fleur qui donnait peut-être naissance aussi à des dons ou différentes choses.
Oui, il y avait aussi un relief médiatique.
Exactement, et donc ils ont décidé de faire cette manifestation. J'ai eu le privilège de présider la première ou la deuxième d'ailleurs.
Oui, c'est à l'époque Jérôme Durand qui devait être direction marketing.
C'est de son idée.
Exactement.
Et en tout cas, son époque.
Depuis son départ, c'est que le bureau est un peu moins dynamique.
On le salue. Bon, en tout cas, ils ont fait une très belle fête ces jours-ci. C'était le 22 septembre dernier. Ils ont demandé à Guy Savoie de faire le repas. D'une petite fête entre potes du départ, c'est devenu une manifestation internationale remarquable. 700 invités cette année, avec des gens du monde entier. La première année, ça a dû rapporter quelques milliers d'euros, et c'était déjà sympathique, versé, je crois, à la Fondation de France. Aujourd'hui, donc, cette année, par exemple, c'était 265 700 euros. Qui ont été collectés.
Le record, Philippe.
Au profit, c'est le record,
ah oui.
Cette année. Au profit de la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui est une structure qui aide des jeunes en difficulté à s'intégrer dans le milieu de la restauration. Et là, ils avaient un projet de refaire complètement leur école avec une nouvelle cuisine, etc. Et ça va leur permettre de faire une très, très, très belle cuisine.
Et vous avez combien de lots qui sont partis?
24 maisons qui jouent le jeu, 24 quasiment cognac assemblés particulièrement dans des flacons soufflés spécifiquement. Donc, c'est quasiment des flacons uniques.
Et le record pour le flacon, c'était quoi?
Alors, je crois qu'il y a un flacon qui s'est vendu 25 000 euros de mémoire. Parmi les maisons, alors j'ai pas le nom de la maison, mais vous regardez sur le site du BNIC avec beaucoup de détails. Comme chaque année, Martel, Rémy Martin, Dupont, Annecy, Frappin, etc. sont largement participants. Un petit truc particulier pour cette 10e part des anges, ils ont voulu marquer le coup. Ils ont fait appel à une plateforme en ligne qui s'appelle Hello Asso, qui a permis de récolter à ce jour à peu près 9 000 euros. Mais c'est toujours actif, ça s'appelle La Part des Anges, au pluriel, donc en minuscule, .cognac.fr. On peut toujours faire jusqu'au 15 octobre, il vous reste une semaine donc, pour pouvoir participer à différentes associations, Nos Quartiers ont du Talent, le Cours de l'Odyssée, le Club des Sonos Optimistes de Cognac, etc., qui sont des associations à but non lucratif,
ouais,
qui essaient
action,
de promotionner effectivement la région de Poitou-Charentes.
Super.
Et de, notamment dans la région de Cognac.
Merci beaucoup Philippe Arbrac. Nous sommes toujours en public et délocalisés chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un nouvel invité, Édouard Damido. Bonjour Édouard.
Bonjour. Alors,
diplômé de l'IAE, et puis vous avez commencé dans le contrôle de gestion. On est quand même loin des vins spiritueux, là.
On en est loin, effectivement. Oui, j'ai un background plutôt de gestionnaire et de chef d'entreprise.
Et après, vous avez créé une boîte, un Sony Press, c'est ça? Vous l'avez créé, vous l'avez dirigé, la boîte?
Non, ça, c'est une entreprise familiale que je continue de porter, et qui est assez éloignée du monde du vin. Mais
qu'est-ce qu'elle fait exactement?
Et, nous distribuons la presse, magazine nationale.
D'accord, très bien.
Sur la région.
Que sur la région?
Sur la région.
D'accord, parfait.
Sur la Côte d'Or.
C'est un monopole d'ailleurs, ou c'est quoi?
C'est un monopole, en tout cas, oui, effectivement, c'est une filière qui est organisée de cette façon-là.
De cette façon-là. Ouais, oui. Alors, on arrive au vin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Vous créez une boîte avec un super concept?
Eh bien, on crée effectivement la marque Vinésime, donc une marque de cosmétiques, vino cosmétiques, de luxe, dans le sens où, voilà, je suis, alors, comme tout bon bourguignon, je suis évidemment attaché à ma région. Je suis pas le seul, hein.
Vous aimez le chardonnay, le pinot noir.
Voilà, j'en vois.
Puis les jolies bourguignons aussi.
J'ai été élevé comme ça. Et, alors, n'ayant pas la chance d'être issu d'une famille de vignerons et, ayant cette envie, ce plaisir de travailler avec des vignerons, il a fallu être un peu malin. Et donc, cette aventure Vinésime est née de ma rencontre donc avec Bernard Bouvier, qui est associé à Vinésime. Bernard Bouvier, donc vigneron sur Gevrey-Chambertin notamment. Alors il a des vignes qui s'étendent de Marsanais donc à Gevrey, Fissin, il fait un peu de Chambol, voilà. Bon, il est situé là-bas. C'est un jeune vigneron qui monte et qui surtout est très il est très curieux du monde qui l'entoure, donc il a tout de suite accroché lorsque je lui ai parlé du projet. Et une autre rencontre déterminante a été avec Alain Lançon, qui est un biochimiste que j'ai rencontré à l'université de Bourgogne.
D'accord.
Qui a travaillé avec Norbert Latruffe. Alors Norbert Latruffe, ça va pas beaucoup vous parler, mais il y a un petit lien, enfin en tout cas un lien assez important avec le vin, dans le sens où cette université a beaucoup étudié et continue d'étudier le resveratrol.
Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là?
Les bienfaits du resveratrol dans le vin. Et dans le vin, et notamment issu du pinot noir, puisque évidemment on se situe en Bourgogne. Donc ce resveratrol est un des polyphénols, donc c'est une molécule excessivement antioxydante, intéressante donc en cosmétique, mais qui une fois ingérée par le vin, hein, uniquement dans le vin rouge, puisque c'est dans le vin rouge, au moment de la fermentation,
donc
que ce resveratrol va migrer, il y en a très très peu, quasiment pas, puisqu'il n'y a pas...
Ça vient de la peau du resveratrol.
Ça vient notamment de la peau, on en trouve bien sûr dans le pépin, dans les sarments, mais lors de la fermentation, ça migre dans le jus. Et ce resveratrol est responsable du French paradox, c'est-à-dire que nous sommes un pays en France où nous mangeons plutôt gras, plutôt sucré, et pour autant
on vit vieux.
On vit plutôt vieux, et puis avec très très peu de maladies cardiovasculaires, contrairement
proportionnellement à notre
proportionnellement
voiture,
par rapport.
Voilà, alors vous surfez complètement sur la vague de Caudalie. Vous êtes quoi, un Caudalie bourguignon?
Alors on n'est pas un MeToo, hein, de Caudalie, dans le sens où bien sûr on travaille la vigne, on travaille des actifs issus de la vigne. On a associé notre extrait de très vieille vigne de Gevrey-Chambertin à un actif issu du bourgeon de cassis noir de Bourgogne. C'est notre complexe d'actifs. Donc on va lier l'activité antioxydante de notre extrait de vigne à l'effet énergisant et oxygénant du bourgeon de cassis noir de Bourgogne.
Donc, et alors, vous vendez ça, vous avez deux gammes de cosmétiques, c'est ça? Vous avez combien de gammes?
Alors, on a principalement, effectivement, deux gammes. Une gamme, la gamme Racine du Temps, puisque c'est le nom de la cuvée qui donne naissance à la gamme. La gamme Racine du Temps, donc Pinot Cassis, avec des produits de soins plutôt orientés institut, spa. Donc, on a des produits, des crèmes anti-âge. Des sérums, des huiles de massage, voilà, sur
une gamme de soins. Pour la distribution, on peut acheter sur internet aussi ou pas?
Alors on peut acheter sur internet, oui, sur vinesim.fr.
Comment ça s'écrit Vinesim?
Pardon?
Comment ça s'écrit?
Vinesim, Vine, V-I-N-E-S-I-M-E, Vinesim.fr.
Vous livrez partout en France.
Weinsheim.
Weinsheim, voilà, Weinsheim en anglais. Donc oui, on livre partout en France. La deuxième gamme est la gamme issue du chardonnay. Donc c'est une gamme un petit peu plus accessoire. Le chardonnay étant plus pauvre en polyphénol, pardon, on l'a réservé à des produits moins techniques, rincés, gel douche, les corps, etc.
Bon, ben merci beaucoup. On va suivre ce dossier. Hein. Donc là, pour l'instant, le chiffre d'affaires, c'est combien à peu près?
Chiffre d'affaires, on est encore tout petit, hein, on fait moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires.
C'est très bien, c'est le début. Et vous avez embauché?
On commence. On embauche.
Ouais, bravo, continuez. On va suivre votre aventure, on va vous inviter régulièrement pour voir comment ça progresse. Vino BFM accueille maintenant un Anglais qui va peut-être devenir Français, David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de cette mention bizarre de supérieur qu'on peut trouver sur certaines étiquettes des vins du Bordelais, David Cobol. C'est quoi?
Bah, écoutez, je pense que la plupart des auditeurs ne savent pas ce que signifie supérieur rajouté au terme Bordeaux, donc je vais tâcher de l'expliquer. Et puis après, je vais parler des mérites de ces vins, parce qu'ils en ont beaucoup. Alors, la majorité des vins rouges qui font partie de l'appellation dite de base de Bordeaux se disent simplement Bordeaux. Mais sur certains, on voit rajouter le terme supérieur. Donc, comment c'est sélectionné? Sur quels critères? Est-ce qu'il y a des Bordeaux inférieurs, des Bordeaux supérieurs? On peut se poser ce genre de questions. Et alors, l'appellation Bordeaux supérieur est réservée à des vins qui ont droit, bien sûr, à la base à l'appellation Bordeaux, mais ensuite doivent répondre à quelques critères un peu plus exigeants. Par exemple, une plantation qui est à 4500 pieds à l'hectare au lieu de 4000 minimum. Donc déjà, sur le plan du vignoble, il y a une exigence supérieure. Ensuite, sur le plan de la récolte, en fonction de l'année, il y a un petit abaissement du rendement. Ça peut être de 3, de 5 hectolitres à l'hectare de moins. Ensuite, il faut qu'ils produisent in fine un demi-degré d'alcool de plus. Par exemple, Bordeaux, le degré minimum aujourd'hui est à 10,5, le degré minimum pour le Bordeaux supérieur est ainsi de 11 degrés. Faut bien dire qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la recherche de la maturité, ces minima sont... Oui. Voilà, on dépasse très largement. Merlot plus réchauffement climatique égale souvent 12,5, 13, voire 14, plus TVA, si affinité. Alors, quelle est la surface réclamée? Alors, comme c'est un acte volontaire en dehors de la plantation, qui doit être un acte vraiment visionnaire, on doit planter à 4500 pour demander ce droit. Il y a ensuite une commission d'agrément. Donc, en bilan, on a environ, ça varie selon les années, 9000 hectares qui produisent du Bordeaux supérieur chaque année. Ça fait de l'ordre de 60 millions de bouteilles par an, donc c'est pas négligeable. Et quelque chose, il y a aussi une appellation blanc supérieur, Bordeaux blanc supérieur. J'en ai jamais rencontré. C'est légèrement doux, moelleux. C'est une appellation moelleux, donc quasiment peu revendiquée. Je crois qu'il y a 200 hectares seulement qui revendiquent ça. Donc, je ne vous parlerai que des rouges. Toutes ces histoires-là, alors oui, j'ai évoqué le Merlot tout à l'heure, mais il faut savoir que 6 cépages sont autorisés dans les appellations de Bordeaux. 3 principaux, le Merlot avant tout, le Cabernet Sauvignon et puis le Cabernet Franc. Mais il y a aussi 3 cépages minoritaires dont on parle assez peu, le Malbec, le Petit Verdoux et le Carmenère qui a quasi disparu mais qui existe quand même. Alors ça, si on prend ces deux appellations ensemble, ça fait 55% de la production du Bordelais. C'est énorme. Ce qui en fait la plus grosse appellation collective des vins fins en France, des vins issus d'appellations contrôlées. Donc c'est très significatif et on devrait s'y intéresser davantage parce que autant quand on évoque le Bordeaux, pour la plupart des consommateurs, ils pensent cru classé, des vins hors de prix, etc., inaccessibles, réservés à des élites chinoises ou que sais-je. Eh ben non, il y a toute une gamme de vins de Bordeaux et notamment de ces appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur. Alors les Bordelais, l'interprofession de Bordeaux et particulièrement le syndicat de Bordeaux, Bordeaux supérieur a la très bonne idée depuis quelques années à faire une promotion sur cette appellation qui consiste d'abord à sélectionner en interne, alors je ne sais pas trop comment c'est fait, mais ils sélectionnent 25-26 bouteilles chaque année de chaque millésime mis en vente. Là actuellement c'est le 2014 qui vient d'être mis en vente. qui soumettent un jury de journalistes. Je crois que Bernard a participé souvent, moi assez régulièrement aussi. Et chaque année, on doit goûter à l'aveugle ces vins-là et déclarer quels sont nos préférés, qui vont servir de vitrine, d'ambassadeur, si vous voulez, pour cette marque collective. Je suis juste un peu étonné par l'attitude de certains de mes confrères, voire des sommeliers, et très notamment des sommeliers. Je ne mets pas en cause Philippe Forbrack, mais quelques
noms peut-être de sommeliers véreux.
Qui font, alors soit s'ils font du complexe devant les grands Bordeaux et disent que c'est inatteignable, ce qui est assez régulièrement vrai, soit ils font du Bordeaux bashing, soit ils font du snobisme inversé, mais ils ne goûtent pas les vins.
Ah oui.
Ils font un rejet systématique. C'est Bordeaux, j'en veux pas, je veux des vins de
Bernard
Burchy,
les goûtes, comme Philippe Forbrack aussi.
Bernard Burchy, c'est un grand expert en Bordeaux, donc je lui apprends absolument rien. Donc il y a un peu une espèce de mix de mauvais creux de la vague pour ces appellations, donc je tiens à les défendre. Alors, il y a d'excellents rapports qualité-prix. Pour donner la fourchette, ça va de 6 à 12, 15, 20, 15 euros pour les Bordeaux supérieurs, les meilleurs. Et dans les vins que j'ai sélectionnés à l'aveugle, parmi 26, je vais vous donner les noms. Ce n'est pas les mêmes qui ont été sélectionnés par mes collègues, parce que collectivement, c'est la moyenne qui fait les notes, mais trois sont les mêmes que les talents. Donc, Château Ferry-Lambert, qui sort régulièrement, Château Moutte Blanc, que je ne connaissais pas, la Motte Vincent, qui sort souvent, l'Insoumise Cuvée Prestige, le Roi Beauval et la Combe Cadio. Et ils viennent de toutes les parties du Bordelais, parce qu'il y a Rive-Droite, il y a Entre-deux-Mers, il y a aussi des vins du Médoc, mais qui ont l'appellation Bernard Bordeaux. Burchy,
un coup de cœur peut-être, comme David, sur cette appellation Bordeaux supérieur.
Oui, il y en a plein. Par exemple, Courteillac.
Oui, Courteillac remarquable qui sort souvent.
Absolument remarquable, qui sort souvent.
Oui. Merci beaucoup, merci David Cobol. De fin de ce numéro 614 d'Invino BFM. Pour savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé au bar à vin restaurant Nicolas, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.